Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au mouvement des Gilets jaunes. Et pour parler de ce mouvement qui agite la France depuis un mois et demi, nous sommes avec trois membres du collectif Agitation Autonome. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
Bon, évidemment, il fallait faire une émission sur ce mouvement qui est quand même le mouvement le plus important depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années en France. Aussi parce qu'il suscite beaucoup de controverses dans les milieux libertaires, autonomes, marxistes, etc. Puisque il y a un peu deux positions extrêmes, entre guillemets, qui s'affrontent. Une qui voit les Gilets jaunes comme un mouvement quasi-insurrectionnaliste, où il y aurait finalement assez peu de choses à critiquer, et qu'il faudrait pas, dont il ne faudrait pas interroger la composition sociale et politique, et puis aussi les limites des revendications et des horizons politiques. Et puis d'autre part, une espèce de condamnation absolue antifasciste qui ferait finalement des Gilets jaunes, un mouvement poujadiste qui préparerait peut-être un février 1934 plutôt qu'un mai 68. Donc dans cette émission, il s'agira de proposer un éclairage un peu plus nuancé, qui ne serait pas exactement le moyen terme qui réconcilierait tout le monde, avec évidemment des analyses un peu différentes, à la fois politiquement et puis aussi en termes d'approche. Du coup, pour commencer, on se disait qu'il valait mieux peut-être commencer par le fait que c'est un mouvement qui est extrêmement changeant, qui a connu une dynamique assez importante de transformation depuis son origine, qui était donc la question de la hausse des prix de l'essence. Donc, est-ce que vous pourriez du coup parler de quelle analyse vous faites de cette dynamique de transformation avec, pour chaque stade, entre guillemets, de ce mouvement social, quelle est la composition un peu sociale et politique ?
Ah bah, comme tu l'as dit, donc, il y a eu le mouvement qui s'est débuté autour d'une lutte contre la hausse du prix du gasoil. C'est-à-dire une question qui concernait donc de larges parts de la population, notamment au fait que la voiture, maintenant, c'est un élément de mobilité indispensable pour se socialiser et également avoir un travail, etc. Surtout lorsqu'on habite dans des zones rurales profondes, qui font face désormais, donc, avec l'éclatement de l'État-providence, à l'éloignement des centres, des services publics, etc. Et du coup, c'est un événement qui a commencé sur les réseaux sociaux. C'est une nouveauté, on peut le dire, dans les mouvements sociaux français, puisqu'on est parti sur quelque chose qui n'était pas de l'ordre des mouvements traditionnels, qui sont généralement construits par des syndicats, qui vont essayer d'agréger des bastions ouvriers, par exemple. C'est souvent certaines branches syndicales qui vont mener la danse, ralliées par leur direction. Et là, du coup, on a quelque chose qui a émergé d'une manière plutôt horizontale, on va dire, ou si ce n'est horizontale, qui a émergé en plein d'endroits différents et qui a permis donc de construire quelque chose qui, comme il n'était pas organisé par le haut, a conquis de nombreux espaces qu'on n'avait pas l'habitude de voir mobilisés. Par exemple, ça s'est construit sur les ronds-points avec des blocages de routes, de ronds-points, etc. Et assez rapidement, on s'est retrouvé avec quelque chose que nous, en tant que militants de gauche, on avait du mal à appréhender, mais également que les forces de l'État, et notamment la police, avaient du mal à contenir, parce qu'on s'extrayait des formes traditionnelles de contestation. Il y avait en somme quelque chose qui relevait de l'imprévu, rien que dans la forme qu'a pris le mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la première semaine, on a eu un mouvement qui, au départ, se voulait bon enfant, avec le fait qu'il soit accessible. C'est-à-dire que le port du gilet jaune, par exemple, ça caractérisait bien cette accessibilité, puisque toute personne possédant une voiture est dans l'obligation d'avoir un gilet jaune. Donc du coup, chaque citoyen appelé et s'entend concerné pouvait porter un gilet jaune et rejoindre le mouvement. Et au fur et à mesure, il a dû faire face, ce mouvement, à des difficultés politiques qu'il n'avait pas forcément anticipées. Avec le premier jour de manifestation, le samedi 17 novembre, on a eu deux personnes qui sont décédées sur les blocages, etc. Et énormément de blessés, finalement, ce qui fait que rapidement, le mouvement est parti sur d'autres bases, quoi.
Peut-être qu'il faudrait dire un mot de la base sociale qui s'est mobilisée. Donc, voilà, c'est évidemment des gens qui ont besoin de leur voiture. Et du coup, ça implique un élément de classe et un élément géographique. Peut-être il faudrait préciser ça.
Bah, du coup, pour compléter ce que tu disais, en fait, il n'y a pas que la ruralité profonde, il y a aussi le périurbain. Et du coup, par rapport à la question de la voiture, les gens qui utilisent le plus la voiture, c'est les cadres. Et par contre, eux, ils sont remboursés, en fait, pour leurs frais du coût de reproduction de la force de travail. Et surtout, pour un certain nombre d'entre eux, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est plutôt à partir d'un certain âge où ils commencent à être motorisés pour certains. Pour d'autres, ça fait partie de leur travail. Mais par contre, chez les ouvriers, en fait, en fonction de... comme ils ont moins le choix, en fait, dans le choix de là où on habite que les cadres, bah du coup en fait c'est les personnes qui commencent en fait le plus tôt à être motorisées et à être dépendants de la voiture. En fait il y a un double axe qui s'est fait sur cette question de la revendication par rapport au prix du gasoil. C'est à la fois la question du fait de subir en fait d'avoir une motorisation subie, dans le sens où on n'a pas le choix. Du coup, une motorisation plutôt prolétaire, en fait. Et en fait, l'autre axe, c'est la question du transfert, en fait, des impôts du capital plutôt vers les ménages. Alors, entre 2008 et 2017, les cotisations et les principaux impôts acquittés par les entreprises sont accrus de 6%, alors que ceux payés par les ménages ont augmenté de 22%, soit trois fois plus. Et ce, sur la consommation de 18%. Du coup, en fait, on est dans un rapport où, pour faire baisser le coût du travail, on a fait baisser le coût du salaire direct, mais aussi le coût du salaire indirect payé par les entreprises. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a été ressenti de manière immédiate et aussi qui a été considéré, en fait, comme un acharnement, en fait, par le prolétariat. Avec une multitude de législations sur par rapport à la voiture, soit le prix de l'essence, soit les 80 km/h avec le fait que ça veut dire plus de PV, soit le contrôle technique plus cher, qui veut dire que ça va à la fois on paye un contrôle technique plus cher et en plus on va plus pouvoir acheter des voitures accessibles, parce qu'en fait c'est aussi que du coup cette économie de la reproduction de la force de travail concernant la voiture, c'était une économie complètement de débrouille où, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve, du coup on va acheter une voiture d'occasion et cette voiture d'occasion-là, on va pouvoir la revendre un peu après à quelqu'un d'autre. Et du coup, toutes ces choses-là sont plus possibles avec le contrôle technique. Et donc, c'est non seulement, en fait, une explosion du prix de la reproduction et aussi, en fait, une restriction de la mobilité des prolétaires, parce que, par exemple, à Paris, on ne peut plus rentrer dans certains cas avec une caisse pourrie. Donc ça fait des gens en fait, qui n'ont déjà pas forcément accès à pouvoir habiter où ils veulent, qui sont obligés en fait d'avoir une voiture pour aller bosser, qui en plus en fait ont une mobilité réduite au moment en fait où les mobilités dans les pays riches s'accélèrent le plus rapidement et aussi pour la mobilité du capital quoi. Du coup en fait c'est un retour en arrière assez important. Et moi ce qui m'a semblé assez important c'est que la voiture c'est aussi le symbole de ce qu'on paye pour travailler. Et du coup, c'est encore plus injuste, en fait, tout ça, parce qu'aussi, on se retrouve dans des zones où, c'est des zones où il n'y a pas forcément du travail à tirer l'arigot, bien que la plupart des gilets jaunes soient des gens qui travaillent. Mais disons qu'en fait, le moment en fait, où on a peur de plus pouvoir se payer sa motorisation, c'est aussi le spectre du chômage. Et du coup, ça veut dire, en fait, à un moment donné, de payer plus pour travailler. Et c'est la situation de pas mal de femmes qui, en fait, gagnent pas d'argent en allant travailler parce qu'en fait, elles doivent payer une babysitter et aussi l'essence. Et avec, du coup, le salaire féminin ou des temps partiels, etc., il y a des fois, en fait, c'est des nanas qui vont juste aller bosser parce qu'en fait, elles savent que quand elles auront plus besoin de babysitter, elles auront plus facile de trouver de garder ce travail plutôt que de pas avoir travaillé avant. Donc on est dans un rapport où, où c'est aussi, en fait, principalement, aussi un rapport au travail, en fait. Parce oui. que c'est l'argent qu'on dépense pour le travail.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça pointe le fait que la sociologie de base du mouvement, même si c'est un mouvement interclassiste, qui donc ne groupe pas qu'une catégorie sociale, qu'une seule classe, c'est finalement une catégorie qui est... dans l'analyse marxiste, pas toujours pris en compte, c'est la catégorie un peu des employés précaires, en plus des employés précaires qui vivent dans le périurbain, donc qui est ni, disons, des prolétaires d'usines au sens classique, ni, disons, des membres de la classe d'encadrement. Même si, évidemment, il y a ces deux composantes dans le mouvement, mais ce dont tu parles, ce serait plutôt principalement ces employés...
En fait, quand on regarde un peu de qui il s'agit, genre les cadres, ils sont vraiment extrêmement minoritaires. Et c'est juste qu'en fait, comme à chaque mouvement social, c'est à eux qu'on donne la parole. Mais en fait, il y a eu un effet médiatique qui s'est fait sur la composition sociale de ce mouvement-là, avec un grossissement en fait, de la partie encadrement, parce que c'est à eux qu'on donne la parole. C'est à eux que les médias bourgeois donnent la parole. Mais en fait, au vu de la composition, c'est vraiment extrêmement minoritaire. Après, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec la question de l'interclassisme, parce qu'en fait, par exemple, les mouvements sociaux traditionnels, mis en place par des syndicats, ils ont aussi une composante assez interclassiste. Et par exemple, en 95, on retrouve des cadres de la SNCF, on retrouve des gens en fait, qui ont un statut cadre. En fait. Il y a eu le mouvement des profs aussi en 2003.
En tout cas, il n'est pas plus fort que dans les mouvements sociaux traditionnels.
Moi, je pense qu'il est même moins fort parce que j'ai l'impression que, en fait, on évalue à peu près à 10% en fait en fonction des divers sondages, des diverses interviews qu'on lit, en fait, tous ces trucs-là. Le nombre en fait de gens qui sont ni ouvriers, ni employés, ni chômeurs, et du coup qui sont soit en fait, je sais pas, des artisans ou des simili-cadres. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'en fait, on a eu cette projection-là parce qu'en fait, le langage en fait qui a été utilisé par les Gilets jaunes, c'est un langage en fait qui est un langage de la droite et qui est le langage contre les taxes et qui est typiquement effectivement un langage de petits patrons, de très interclassiste, très poujadiste. Sauf qu'en fait, c'est un langage qui a été mal compris. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu le transfert des... un certain transfert, pas un transfert total, hein, mais quand même un transfert des impôts et cotisations des entreprises vers les ménages. C'est-à-dire que la fonction de l'impôt a changé de sens. Et du coup, là où en fait il y avait un consentement à l'impôt, parce qu'en fait il y avait une possibilité de redistribution, même si elle n'était pas totale. Par exemple, les fils d'employés et d'ouvriers, ils font beaucoup moins d'études que les cadres. Leurs enfants font beaucoup moins d'études que les cadres. Et pourtant, en fait, ils savent que leurs gosses ont peut-être la possibilité d'aller à la fac un an ou deux, je sais pas. Mais en fait, il y a une ouverture là-dessus. Et du coup, à partir du moment en fait, où où on est à la fin un peu voilà, de l'État-providence, ou qui devient de soit moins accessible, par exemple avec Parcoursup, soit avec des manques de moyens matériels dans les hôpitaux qui font que ça devient plus quelque chose de très sûr. Le consentement à l'impôt, en fait, change. Et du coup, c'est plus le même rapport, en fait, avec ce mot d'ordre-là, contre les taxes. Parce que c'est contre le fait que ça soit les ménages qui financent le CICE, par exemple.
Par rapport aussi à la composition sociale du mouvement, on peut dire qu'il y a la part des classes supérieures, notamment des cadres, a décru depuis le début du mouvement, puisque d'une part, en fait, on a eu au contact de la mobilisation en tant que telle. Il y a par exemple le patronat routier qui s'est très vite désolidarisé après la première journée de mobilisation, alors qu'au départ, il se prononçait plutôt en faveur d'un espèce de mouvement qui se voulait plus citoyen. Mais lorsque les blocages de rond-point ont commencé, il s'est rendu compte que finalement ça frappait au portefeuille, etc. Et du coup, il a dû s'éloigner. Et pareillement, dans les formes que la mobilisation a prises, il y a eu finalement fatalement un contact avec la police qui s'est fait. Et si la violence n'est pas intrinsèquement révolutionnaire, bien entendu, elle implique au moins, à minima, une part de conflictualité. Et cette conflictualité, elle s'est perçue dans les affrontements, dans la confrontation physique avec la police, qui a forcé la bourgeoisie, finalement, la droite en général, à prendre ses distances avec ce qu'elle voyait comme une menace de l'ordre sécuritaire, etc. Et du coup, fatalement, les médias, etc., ont commencé à dire beaucoup de mal de ce qu'ils voyaient comme un mouvement de casseurs, etc., en reprenant donc toute la rhétorique et la sémantique habituelle. À propos de ça, il y a également le fait qui je pense, n'est pas sous-estimé, que la répression est allée en s'accentuant jusqu'à aujourd'hui, maintenant, donc chaque samedi, on va avoir plusieurs dizaines de milliers de policiers à Paris, des magasins barricadés, etc., une quantité de grenades qui est assez ahurissante, qui est utilisée chaque jour, avec plusieurs personnes qui ont déjà perdu des yeux, il y a des morts, il y a des gens dans le coma, etc. Il y a une répression extrêmement forte, ce qui fait que, effectivement, les cadres qui, au départ, pouvaient voir d'un bon œil relatif, évidemment, la mobilisation, vont maintenant rechigner à se mobiliser, à prendre autant de risques, parce qu'on parle vraiment de risques physiques quand on vient manifester, à prendre des risques pour quelque chose qui leur apparaît effectivement comme secondaire. Là où les prolétaires, pour reprendre la formule de Marx, n'ont que leur chaîne à perdre. Et pour eux, effectivement, la question du prix du gasoil, c'est quelque chose qui occupe une place très très importante, en fait, parce que c'est une part relativement énorme de leur budget. Et du coup, ils sont obligés finalement de se battre pour ça.
Et peut-être simplement un troisième point sur ce sujet-là, avant de vous redonner la parole. Il y a aussi dans l'évolution des revendications, cette évolution de la composition de classe qu'il ne faut peut-être pas exagérer. Il y a aussi le fait qu'il y a commencé à avoir la revendication d'une revalorisation du SMIC, qui évidemment est un peu pas du tout dans les intérêts des cadres ou du petit patronat. Mais comme ce point fait débat entre vous, est-ce que quelqu'un d'autre aurait du coup une nuance à apporter à ce qui vient d'être dit?
En fait, je vais juste lire les sondages de cet institut qui s'appelle l'IFOP et qui disait que, en gros, au début novembre, dès le début du mouvement, il y a un clivage de classe. Parce qu'en fait, les ouvriers et les employés soutiennent à 60% en fait, les gilets jaunes, alors que les cadres et professions intellectuelles, c'est plutôt un peu moins de 40%. Donc on a une différence de 20% qui va en s'accentuant avant en fait, le grand samedi de la grande violence à Paris et en d'autres contrées. Parce qu'en fait, par exemple, chez les cadres, ça baisse à 20%. Avant en fait qu'il y ait un éclatement de la violence quoi. Et du coup en fait il y a déjà il y avait un clivage en fait très net sur la question sur cette question là de base quoi.
Après peut-être que quelque chose qui permettrait de concilier ces deux analyses mais serait peut-être la dimension spatiale, c'est-à-dire que quand on parle de cadre finalement chez les cadres urbains, il semblerait que ce soit justement ceux qui étaient le plus opposés au mouvement des Gilets jaunes, alors que peut-être que des petits cadres du périurbain pouvaient se sentir plus proches du mouvement, ou des petits patrons, même si, évidemment, il ne s'agit pas d'exagérer la composition de cette...
Ouais, numériquement, ça ne représente pas grand-chose, hein, les petits patrons.
Oui, oui, c'est clair que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose.
Bah, déjà, je pense qu'il faudrait partir peut-être de la base de comment s'est façonnée la ville depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis la charte en fait, d'Athènes de Le Corbusier, qui a beaucoup... inspiré les architectes et aussi les urbanistes sur la décennie qui vient de passer, qui est en fait une sorte de taylorisme appliqué à l'espace où en fait on se focalise sur trois fonctions principales qui est se loger, se divertir, travailler, et une fonction qui doit faire en fait la liaison qui est se circuler en fait. Et auparavant, tu avais une multifonctionnalité des villes qui faisait que clairement ce qu'on voit à Paris avant 1930, c'est. T'as les usines qui sont à côté des centres de pouvoir. Et d'ailleurs, c'était un vrai problème pour le pouvoir, parce que t'avais tout de suite une contestation ouvrière qui venait et qui pouvait le contester. On peut parler, par exemple, des manifestations sauvages de la CGT au début du siècle qui venaient de Saint-Denis, qui détruisaient tout sur son passage. Donc, y a déjà...
Tu veux dire qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver...
pour trouver les meutes. Cela posé, qu'on peut aussi dire sur cet événement, c'est cette opposition qu'il y a entre urbain et rural, qui est un peu artificiel, qui est beaucoup mis en avant par Guilly, notamment sur la France périphérique, avec des catégorisations qui sont vraiment ultra contestées par le champ universitaire. Donc il est un petit peu seul dans son coin, en franc-tireur. Pour une seule bonne raison, c'est que déjà, en fait, les modes de vie et puis les styles de vie sont déjà beaucoup influencés par la ville. Il y a, selon l'INSEE, 92% de la population sont dans des modes de vie urbains, en fait. Déjà, ça change un petit peu la donne quand on prend ça en compte. Après, sur en fait, peut-être la stratification de l'espace, Henri Lefebvre parlait en fait de la projection au sol des rapports sociaux. Donc, on peut, là, ce sera un petit peu à la hache, mais on peut dire que dans les métropoles, puisque en fait, c'est aussi la forme urbaine qui est le plus mise en avant, on est dans un moment de métropolisation, et même tout, aussi bien le capital que les instruments législatifs vont dans ce sens-là. Hein. C'est les dernières lois prises ont essayé de conforter cette idée de métropole, et c'est ce qui est toujours mis en avant. Et dedans, en fait, on a toutes les classes créatives, c'est-à-dire celles qui sont très intéressantes pour le capital. D'ailleurs, en général, c'est un des éléments des sièges sociaux, c'est pas forcément, c'est aussi ces avantages comparatifs d'avoir une population très bien formée, disponible à proximité. Donc, clairement, on est dans des ultra-centres qui accumule la richesse. Paris, c'est l'accumulation aussi d'une richesse coloniale, d'une richesse de la concentration de l'État depuis des décennies, voire des centaines d'années. Et contrairement à ce que peut dire Guilly, à proximité même des villes, on a une extrême pauvreté, typiquement l'archétype. Oui, même en même temps de la ville, par exemple la Banane, pas très loin dans le 20e, c'est aussi une zone de pauvreté assez importante. Mais prenons l'archétype Aubervilliers, on a un taux de pauvreté qui est à 60% de la population, ce qui est sous le seuil de pauvreté, ce qui est quand même énorme. Et là, clairement, peut-être qu'on s'est beaucoup plaint du fait que les banlieues ne venaient pas, mais ils ne sont pas forcément concernés par la voiture, parce que le taux de motorisation est très faible, en fait, dans les proches banlieues. Maintenant, on peut passer sur l'espace de périurbain, alors qui est quand même important, c'est 24% de la population sur un tiers de l'espace du territoire français. En général, il y a quand même pas mal de professions intermédiaires, mais pas que, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi, et ça c'est aussi un redéploiement du capital, la construction vise extrêmement ces espaces-là, parce que ça ne demande aucun effort, c'est des espaces vierges. Donc Kaufmann et Broad, c'est un des plus gros constructeurs, avec l'archétype du pavillon, qui correspond aussi aux Trente Glorieuses, à un mode de vie qui est voulu, hein, qui est plébiscité, hein, c'est ce que veulent les Français. Et aussi des incitations fiscales. Il y a le Borloo, l'Euro bien, les Célières qui facilitent en fait ce type d'habitat. Donc ils se sont installés souvent dans le périurbain, à côté de villages ou de zones de pauvreté. Hein. Par exemple, il y a des grands ensembles, par exemple la Massy-Palaiseau, si on doit parler de la région parisienne. Et en fait, ils créent aussi un petit peu leur utopie à eux. Hein. C'est qu'il y a aussi une forme d'endogamie sociale, c'est-à-dire que ça va aussi avec ce mode de vie, et les maires aussi prennent ça en compte, hein, c'est-à-dire qu'ils payent clairement toutes les amendes pour non-respect de la loi SRU, c'est-à-dire de logement social dans leur ville, et parce que ça fait partie du package d'habitat. Et il y a le rural qui, par contre, là, est quand même largement ouvriers et où les syndicats sont pas beaucoup là, il faut le dire. Mais clairement, c'est en fait quand on voit par exemple tous les plans sociaux depuis des années à la télé ou ailleurs, c'est toujours dans la campagne ou dans le rural profond. Et c'était un choix en fait du capital qui a voulu en fait éloigner, comme je disais tout à l'heure, les zones productives et les zones industrielles de l'approche, par exemple, de la proximité de Paris. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle pleine commune actuellement, ça a été au moment où toutes les usines sont parties à la fin des années 80, c'était la plus grosse zone industrielle d'Europe. De déprise en fait, hein, donc, et ça a été envoyé soit à l'étranger, soit dans le rural profond, parce que ça permet de désorganiser la classe ouvrière.
Oui, déjà dans les années 60, il y avait cette dynamique-là. Ouais.
Donc clairement, ça explique aussi pas mal de choses sur le fait que dans le rural profond, oui, il y a des problématiques, il y a beaucoup de blocages ruraux. C'est peut-être un des éléments qui est un peu ambivalent. Dans cet événement, c'est qu'il y a peu de focal en fait sur ces blocages qui sont les plus intéressants, qui sont vraiment très loin dans le rural profond, où en fait ça agrège aussi des luttes de fermeture d'hôpitaux ou d'usines, où en fait ils se retrouvent sur ces blocages pour pouvoir justement être plus forts ensemble. Et un des éléments que je disais à l'origine qui permet de faire la liaison de tout ça, c'est en fait la mobilité. En fait, on est vraiment une société de la mobilité qui a explosé depuis les années 60. On le voit aussi bien avec les transports que le taux de motorisation ou les voitures. Et en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que ça permet en fait une recomposition des catégories territoriales. En gros, je vais le faire très simplement, les gens qui sont les plus dotés d'argent en fait, ont une possibilité de mobilité qui est maximale, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ne l'ont pas en fait. Et c'est aussi un choix de vie, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des formes, ce qu'on appelle les liens faibles, ce qui était théorisé par Simmel, qui est un sociologue. En fait, les gens cherchent, les gens qui ont le plus de capitaux, en fait, ont des liens faibles, c'est-à-dire pas des liens très forts entre les personnes, parce que ça leur permet de capitaliser dessus, en fait. Donc, en gros, ils peuvent avoir plusieurs cercles d'amitié, ils vont prendre leur voiture pour aller voir leurs copains à 50 km, c'est pas un problème, mais ils vont être dans un entre-soi des gens qui ont fait les mêmes études, qui font partie de la même catégorie socio-professionnelle, et ça explique pas mal de choses quand même aussi sur des formes de segmentation sociale et spatiale.
Ouais, alors qu'à l'inverse, ce qu'on a pu voir dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est des formes de solidarité assez forte entre des gens qui occupaient un même espace.
Tout à fait, ouais, t'as une sorte d'atonie spatiale parce que justement, pas la possibilité de prendre ta voiture comme tu veux. Donc, obligation quand même de créer des formes de solidarité plus fortes, tout simplement pour compenser cette impossibilité de se mouvoir, qui devient quand même le seul sésame pour, vous pouvez le dire tout à l'heure, une de mes collègues, pour pouvoir accéder au travail, accéder même aux amitiés, même accéder... juste à avoir une vie de couple, hein, même indépendamment.
Oui, c'est important, effectivement, parce que ça renvoie encore à la question que un des moteurs de ce mouvement des Gilets jaunes semble être l'idée que l'État est au service du capital, qu'il ne fonctionne plus comme cette espèce d'instrument, de superstructure neutre, et que finalement, toutes les restructurations... des 40 dernières années, bon, c'est une analyse très connue, voilà, sur la question du néolibéralisme, aurait voilà, été fait au désavantage du travail, qui aurait un rapport finalement contraint et subi à la mobilité, c'est-à-dire la précarisation, l'éloignement des lieux de travail et des lieux de vie, évidemment ça pénalise le travail, alors qu'évidemment le capital, lui, c'est une mobilité qui va plutôt être positive pour lui, la possibilité de se déplacer... d'un espace à un autre, de se relocaliser en fonction des avantages comparatifs de l'espace. Et peut-être que ça explique pourquoi est-ce que il y a un rapport conflictuel à cet État qui est intéressant et qui est peut-être différent d'une espèce de critique poujadiste, anti-taxe, etc. Puisque c'est un peu une espèce d'accusation de l'État comme État du capital. Et en même temps, il y a encore cette idée que l'État pourrait être autrement et que finalement, et ça, ça aborde une des principales controverses du mouvement, c'est que l'État pourrait être au service non seulement du capital, mais aussi, par exemple, peut-être des migrants ou des immigrés. Voilà, peut-être parler de cette question-là, du rapport à l'État?
Bah, ouais, mais je vais parler du rapport à l'État, mais plutôt sur la question de l'État et comment il a favorisé de manière indirecte la voiture. En fait, par exemple, l'explosion en fait, de la motorisation en fait, des salariés en France, ça commence dans les années 60. Et c'est à partir plutôt des années 70 où le prolétariat va s'équiper en fait en voiture. Ça correspond aussi en fait au même moment où en fait l'État va arrêter de subventionner le logement public collectif. Et du coup en fait il va y avoir plutôt un transfert sur par rapport à ce que tu disais sur la subvention en fait au logement individuel privé. Et du coup le développement en fait de l'habitat périurbain. Et donc à partir des années 70-80, il y a un développement en fait de cet habitat-là où en fait il y a la nécessité en fait d'être motorisé parce qu'en fait l'avantage du coup de subventionner à travers des sortes d'APL pour proprio et du coup c'est des lieux où, enfin pas partout hein, mais en certains endroits en fait il n'y a pas d'infrastructure quoi. Et du coup, en fait, il y a le corollaire entre une baisse en fait du nombre de petites lignes de train à partir des années 60-70, parce que justement, en fait, à cette époque-là, le pétrole est peu cher et du coup, la mobilité n'est pas vue comme une contrainte. Et à partir du moment où le pétrole devient plus cher, c'est là où c'est une question qui devient beaucoup plus embêtante pour ce prolétariat qui vient de s'installer. Plus loin pour pouvoir devenir pour la première fois des générations propriétaires, ce qui est un événement hyper important en fait dans l'histoire de la classe ouvrière quoi, et l'accès à la propriété et du coup qui se fait en fait dans une période de crise où au final la voiture n'est plus un avantage et du coup malgré tout en fait c'est quand même ça coûte moins cher d'habiter un petit peu plus loin et de payer sa voiture quand même. Mais du coup, c'est là où, en fait, il y a une sorte de bascule qui se fait aussi, quoi.
Je vais bien compléter. Du coup, clairement, c'est le cas des plus pauvres qui subissent, en fait, cette relégation périphérique puisqu'ils décident de faire le choix d'économiser sur le foncier ce qu'ils vont perdre en mobilité. Tandis que, en fait, les plus riches, eux, décident d'organiser dans ces mêmes endroits, hein, dans le périurbain, une sorte des logiques d'agrégation par mimétisme social, en fait.
Oui, ils vont se concentrer dans des endroits forte homogénéité sociale.
Après, t'as raison, oui, il y a aussi plein de bourgeois et de cadres
mais
qui viennent
avec la même forme, en fait. La même forme qui est celle du pavillon, mais pas les mêmes populations et pas les mêmes endroits.
En fait. Sauf qu'en gros, eux, pour eux, la voiture, c'est pas une mobilité subie. Mais,
totalement, c'est choisi.
Du coup, on a beaucoup parlé de cette composition de classe qui, on le voit, est quand même un peu différente de celle qu'on présente habituellement. Comment est-ce que vient se greffer la question politique? Parce que, évidemment, si le prolétariat était intrinsèquement révolutionnaire, ça se saurait. Comment est-ce que, à partir de cette sociologie d'une majorité des membres du mouvement qui sont des gens qui ont subi durement la restructuration du capitalisme à partir des années 70, par rapport à la question de la mobilité contrainte, par rapport à la question des impôts et des taxes, par rapport à la question que l'État est de plus en plus l'État du capital, toujours moins l'État des travailleurs, si jamais il a été aussi l'État des travailleurs. Comment est-ce que à partir de cette sociologie, il y a une superstructure politique, idéologique qui va se greffer avec, et de manière peu surprenante, des discours qui à la fois pointent ce genre de problème et qui en même temps peuvent se fourvoyer sur la nature exacte du problème ou sur la solution et qui a rendu possible le développement à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, enfin disons la diffusion à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, de discours d'extrême droite et ou racistes et ou populistes et ou étatistes. Voilà, comment est-ce que...
Moi je pense que ce mouvement en fait, il est un symptôme de la dissolution de l'identité ouvrière, ce qui fait que finalement les gens ils perçoivent le prolétariat perçoit un dysfonctionnement de l'appareil étatique qui, auparavant, à travers le compromis fordiste, leur assurait une plus ou moins juste redistribution de la survaleur produite. Et du coup, il y a ce dysfonctionnement, en fait, et c'est lui qui va causer le problème, qui va essayer de rappeler... Il y a une forme de nostalgie qui est le retour à la période d'avant, quand tout marchait bien, quand l'État était juste et rétribuait les prolétaires convenablement. Et ce qui fait qu'également, les syndicats, comme ils sont absolument inexistants, on peut le dire, dans ce mouvement, ils n'encadrent pas le mouvement par un contenu politique stable et une idéologie déterminée qui serait, avec tous les discours qui vont avec, qui est celui de la classe ouvrière, etc. Et là, du coup, on a un contenu politique qui est plus ou moins celui du peuple, donc qui va essayer de mettre en avant le peuple comme sujet politique. Et c'est peut-être là qui, malgré la composition sociologique de plus en plus et même presque prolétarienne du mouvement, va porter un discours des classes dominantes, en fait. Et l'exemple le plus frappant qu'on a, c'est la nouvelle revendication qui est quasi hégémonique aujourd'hui dans le mouvement, c'est le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est finalement la consultation par l'État des citoyens qui vont s'exprimer au travers d'un référendum. C'est un système politique qui est assez connu puisqu'il est déjà pratiqué en Suisse depuis bien longtemps, et pourtant en Suisse ce n'est pas encore le communisme, à ce que je sache. Donc le RIC, c'est l'expression de la volonté du peuple, et c'est aussi s'en remettre aux institutions bourgeoises pour rétablir une république qui aurait été entre guillemets corrompue, d'utiliser les institutions bourgeoises pour rétablir ce qu'elles auraient dû être, ce qu'elle devrait être. Mais donc on peut se poser la question donc du débouché politique qui va se retrouver derrière les Gilets jaunes.
Et justement là-dessus, puisqu'on parlait de la nostalgie des 30 Glorieuses, est-ce que ce qui caractérise pas ce mouvement, c'est finalement l'illusion politique, c'est-à-dire l'idée que la politique serait une espèce de forme qui serait radicalement distincte de l'économie, du capital, et que avec la politique, on pourrait contraindre le capital à faire des bonnes choses, à devenir un capital à visage humain qui favorise également le travail, avec l'idée finalement que le capitalisme a une sorte de plasticité qui lui permettrait d'être ce qu'on voudrait démocratiquement à travers ces référendums d'initiative citoyenne, avec l'idée que précisément les 30 Glorieuses sont précisément la vérification de ça, alors qu'en réalité, si on regarde bien, les 30 Glorieuses sont simplement une étape dans l'histoire du capitalisme, qui est rendue possible par tout un tas de facteurs qui ne peuvent pas être reproduits, et qui ne seraient même pas souhaitables d'ailleurs de reproduire. Et du coup, est-ce que ce n'est pas effectivement une des grosses impasses de ce mouvement, comme d'ailleurs, et c'est là où il ressemble énormément en fait aux mouvements sociaux qui l'ont précédé depuis en fait les années 80, avec l'idée que c'est l'État qui est en partie le problème et que l'État sera forcément la solution si on change son contenu entre guillemets sans interroger les contraintes qui pèsent sur cet État qui est malgré tout un État du capital et aussi qui doit reproduire le capitalisme.
La revendication commune qui est partagé par à peu près tous les Gilets jaunes, c'est Macron démission. C'est-à-dire que Macron, il aurait vendu, selon certaines théories, vendu la France à l'OTAN, je ne sais plus, des choses qui surgissent comme ça, et c'est que finalement, en rebattant les cartes du jeu politique, on pourrait arriver à se refaire représenter bien comme avant, c'est-à-dire à l'époque des 30 Glorieuses, où tout passait bien, on avait un président qui était peut-être pas si mal, on ne sait plus trop, etc.
Après, il faut aussi le remettre dans un certain contexte qui est la fin du bipartisme. Et que du coup, ce rejet de Macron, il s'inscrit aussi dans une abstention très forte depuis un certain temps, l'effondrement des grands partis. Et il y a eu aussi, faut se rappeler qu'on critique le RIC, bon, d'accord, mais c'est aussi des choses qui sont très présentes à gauche, voire à l'extrême gauche. Par exemple, la Nuit debout. C'était une volonté de démocratie directe. En fait, dans le mouvement, par exemple, étudiant de 2016, c'était une parodie de volonté de démocratie directe avec des étudiants qui font un vote pour savoir quelle rue il faut prendre, en fait, dans une manif sauvage, je sais pas. Mais disons que, évidemment, je trouve que c'est extrêmement critiquable, plutôt pour une question stratégique d'affaisser la mobilisation et de la détourner sur un truc politique comme ça, Mais sur la question politique, c'est vraiment en fait un leitmotiv en fait de la gauche en fait. Et ça pourrait très bien en fait être une proposition du NPA par exemple. Et du coup, moi les choses qui m'interrogent aussi un petit peu par exemple, c'est le fait que la question des références en fait, il y a un drapeau français, il y a la Marseillaise, du coup il y a énormément de références à la Révolution française. Et j'ai l'impression que ces références, elles sont sur la question de montrer une rupture en fait, de montrer une volonté de rupture extrême. Mais ce qui est assez bizarre par rapport en fait à la composition de classe de ce mouvement, c'est qu'il nie en fait toute référence au mouvement ouvrier, vu qu'en fait la Révolution française est arrivée avant le mouvement ouvrier. Et du coup, il y a quelque chose d'assez bizarre en fait, où ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur un tel déclin en fait des capacités de lutte ouvrière que même en fait dans ses références et son identité en fait, il n'existe pas.
Oui, et du coup, il n'y a plus que l'identité de peuple ou de nation qui reste mobilisable et un imaginaire et l'imaginaire politique qui subversif qui va avec, celui de la Révolution française. Mais du coup, d'autres imaginaires subversifs, toutes références au passé, sont pas possibles parce que précisément, elles ne correspondent pas du coup à cette identité de nation ou de peuple, mais plutôt à une identité ouvrière.
Oui, on pourrait aussi, ce serait une autre modalité d'interprétation. Il y en a beaucoup qui y voient un populisme sans leader, tu vois, un petit peu comme si c'était Mélenchon qui aurait enfin son programme qui arriverait sans lui. Donc en fait, c'est un peu la personne à dégager qui serait Macron et les dégagistes aussi qui seraient Le Pen et Mélenchon qui seraient aussi dégagés. Donc c'est aussi quelque chose d'assez spécifique. Parce que quand même, quelque part en ce moment, c'est un peu l'ère du populisme partout en Europe, de gauche comme de droite, Podemos aussi. Et là, ce serait un petit peu la concrétisation de ça, en tout cas, pas en totalité, hein, mais en partie, en tout cas dans l'imaginaire de certains, sans que ça suive les recettes habituelles de ces formes-là.
Oui, en fait, une sorte de populisme par en bas, alors qu'effectivement, on est plus habitué à un populisme par en haut.
Oui, avec un leader charismatique ou un parti.
En fait, il y a aussi le fait que, par exemple, tous les leaders autoproclamés ou proclamés par le gouvernement en fait, des Gilets jaunes, il ne faut pas oublier que ces gens-là, le jour où certains ont accepté de négocier avec le gouvernement ou ne serait-ce que d'aller les voir, en fait, ils ont reçu énormément de menaces de mort. Donc en fait, c'est la première fois, en fait, à part durant les émeutes de banlieue, en fait, qu'on a un mouvement en fait, où les représentants en fait, se cachent et qui n'existent pas en tant que représentants réellement. En fait, parce que je suis désolée, en fait, quand quelqu'un fait une pétition et qu'il y a 1 million de personnes qui la signent, ça ne veut pas dire qu'on est le représentant de quoi que ce soit. Quand en fait, on tient des groupes Facebook, c'est pas parce qu'on est dans ce groupe qu'on est adhérent à une idéologie, qu'on est militant de quelque chose. Par exemple, moi, je lis la presse bourgeoise, pour autant, genre, je suis pas de droite. Il faut vraiment prendre en considération aussi le fait que c'est assez historique genre, d'avoir des gens qui... des leaders autoproclamés, en fait, qui reçoivent des menaces de mort, en fait. Moi, je trouve que ça a été un des événements les plus importants. Hein.
Par rapport à la question du populisme, je pense que, bon, déjà, il faut rappeler évidemment que le mouvement ouvrier n'a pas été exempt de populisme tout au long de son histoire et qu'il y a eu de nombreuses références à la nation, au peuple, etc., dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans la Commune de Paris, à part certains mouvements ou certains moments de l'histoire, mais qui sont globalement assez rares, il n'y a pas de pureté du mouvement ouvrier par rapport à ces questions. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'opposer le bon mouvement ouvrier qui a existé jusqu'aux années 70 et puis les Gilets jaunes. Et j'ai l'impression que finalement, si ça prend aujourd'hui, ce mouvement prend une forme populiste, c'est non pas tellement par le fait que ce seraient des gens pas gentils ou... voilà, qui aurait une idéologie d'extrême droite, conscientisée et volontaire, mais plus parce que finalement ça s'inscrit dans un phénomène, le populisme, qu'on a analysé dans une émission avec Alain de Théorie communiste, et qui succède à la période dite du démocratisme radical, où là, la même composition de classe parfois, c'est-à-dire ses employés, pouvaient se reconnaître plus dans un mouvement un peu plus altermondialiste, et puis avant... aurait pu se reconnaître dans le mouvement ouvrier. Donc peut-être que c'est plus une question de contexte que vraiment de volontarisme, même si ça n'en pose pas moins le problème de, des discours et de l'idéologie qui est diffusée par le mouvement des Gilets jaunes qui circule à l'intérieur de lui et qui pose quand même un certain nombre de questions et de problèmes.
En fait, c'était aussi que, par exemple, pour revenir sur cette histoire de Rick, enfin, moi j'ai l'impression que ça s'inscrit plutôt en fait dans... dans du démocratisme radical que dans du populisme, en fait. Et du coup, en fait, les frontières, elles sont... Enfin, j'aurais un peu du mal à les définir comme ça. Et c'est aussi que le démocratisme radical, pour moi, c'est beaucoup plus associé à des classes d'encadrement, en fait, à des professeurs, à tous ces gens-là qui ont un attachement, en fait, à l'État, parce qu'en fait, ils sont encadrants de l'État aussi. Mais... Après, c'est aussi que je suis plutôt un peu méfiante avec ces mots de populisme parce que je trouve que c'est un peu... Bon, j'ai pas écouté l'émission dont tu as parlé, mais je trouve que c'est un peu des mots, les mots qu'utilise la bourgeoisie, c'est les mots qui sont utilisés par Macron aussi pour se définir, et que à ça, je préférais en fait les notions de nationalisme de gauche ou nationalisme de droite, dans le sens où toutes les idées qui ont été portées par soit Montebourg, soit Mélenchon, d'avoir une production en France, etc., ces idées-là. Et du coup, c'est qu'il y a l'alternance, en fait, entre un nationalisme économique de gauche et un nationalisme économique de droite, quoi, d'extrême droite. Mais ou sinon, ou est-ce qu'on peut avoir une définition plus claire du populisme ?
Non, c'est que aussi une des grandes nouveautés de ce mouvement par rapport au mouvement de gauche entre guillemets classique, c'est que si les Gilets jaunes ne sont pas une bande de fascistes invétérés, on peut dire qu'il y a une présence de groupes d'extrême droite au sein du mouvement, à l'intérieur même, hein, qui n'est pas acclamé, mais qui ne dérange pas une grande partie des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les affrontements sporadiques qu'on a pu voir entre militants antifascistes et nationalistes révolutionnaires, type GUDE ou royalistes comme l'Action française, sont déroulés dans l'indifférence générale de tout le monde autour. Parce qu'il y a aussi idéologiquement la tâche, et je pense que c'est ça ce qui est constitutif du populisme, c'est la tâche à une union, l'union des gens qui se déclarent apolitiques, apartisans, etc. Et du coup, comme on est un peu unis, on forme un truc qui s'appelle le peuple. Et pour l'unité, il faut des ennemis communs. Donc on va tous se battre ensemble en faisant un peu fi de tout ce qui nous sépare. Alors que ce qui nous sépare, c'est proprement politique.
Oui, moi, c'est dans ce sens-là aussi que je voulais utiliser populisme. C'est-à-dire celui utilisé par Mélenchon avec Chantal Mouffe et tout ça, de ses, et toute sa théorisation. Donc voilà, c'était pas le point de vue bourgeois.
Sur la question du démocratisme radical, je vais reprendre l'exemple de 95, mais 95, c'est pas les classes qui bénéficient de la mondialisation, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est essentiellement un mouvement de fonctionnaires, à quasiment 80%. Du coup, en fait, c'est-à-dire que ce mouvement-là, il peut pas se reproduire actuellement, parce qu'en fait, on est dans une phase de décrue, en fait, de l'emploi fonctionnaire, soit en fait de manière directe à travers des non-renouvellements, soit à travers de l'emploi précaire au sein de l'État, avec soit des CDD, soit des avant les services civiques, soit des emplois aidés. C'était aussi en fait un... Il me semble en fait que le démocratisme radical en France, il est aussi lié en fait à une décrue en fait de l'emploi ouvriers employés dans le privé, alors qu'à ce même moment, en fait, il y a une croissance de l'emploi, en fait, dans le secteur public. Mais pourquoi il y a cette croissance ? C'est parce qu'en fait, il y a une croissance de la population. Du coup, en fait, on garde le même nombre de fonctionnaires par personne, mais en fait, au moment où il y a l'apparition du chômage de masse. Et du coup, il y a, il me semble, un transfert quand même des capacités de lutte parce qu'on est plus syndiqué dans le public que dans le privé, quoi. Mais après, pour revenir sur la question du peuple, et du coup, en fait, le vide politique est comblé par cette espèce d'expression qui revient. Bah, j'ai aussi l'impression que c'est lié au fait que, en gros, t'as toute une partie des gens qui votaient pas, ou des gens qui votaient à droite, parce qu'en fait, y avait des possibilités en fait, d'augmentation de salaire, enfin des... comme par exemple avec, je sais pas, la défiscalisation des heures supplémentaires ou le développement de l'emploi avec la création d'emplois aidés ou tous ces trucs-là, en fait, qui étaient une manière qu'avait, en fait, soit l'UMP ou le PS de draguer les employés et les ouvriers en leur disant « Voilà, il y a toujours un moyen pour vous, quelque part, de gagner un peu plus ou alors d'avoir un travail ». Et en fait, il me semble que la rupture qui s'est passée, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, tu as de plus en plus d'abstention et la fin du bipartisme, sauf qu'en fait, En Marche ne s'adresse pas, en fait, enfin, propose aucune alternative aux prolétaires. Et du coup, tu as un basculement, il me semble, de ces prolétaires, en fait, qui... à qui les politiques parlaient un petit peu, à travers, tu vois, je sais pas, des mots comme ce que disait Raffarin, comme la France qui se lève tôt, tous ces trucs-là, en fait. C'est-à-dire que c'était... Il y avait des options de droite pour le prolétariat, ou des options plus centristes, et qu'en fait, aujourd'hui, elles n'existent plus. Et du coup, tu as ce basculement qui se fait, quoi.
Tout, effectivement, une opposition frontale
à Macron, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas une grille de lecture... politique claire, parce qu'en fait c'est des gens qui ne viennent pas de la gauche forcément. Bon, après il y a certains sondages qui disent que t'as 40% de gens qui votent plutôt à gauche, mais ça veut dire que le reste n'a pas en fait de grille politique de lutte, mais plutôt en fait t'as un basculement qui se fait en fait vers une lutte qui est plus ou moins forcée en fait.
Oui, par l'absence d'options électorales, politiques qui ont l'air un minimum
crédible. C'est qu'il n'y a même pas d'espoir, quoi.
Ouais, il faut aussi voir dans la partie géographique à quel point aussi les mobilisations de Gilets jaunes dépendent aussi du territoire où ils sont. C'est-à-dire que quand tu as des centralités ouvrières comme au Havre ou à Saint-Nazaire, parce qu'à Saint-Nazaire, ils ont quand même pris une ancienne préfecture, ils l'ont transformée en maison du peuple pour s'organiser, c'est quand même voilà, autre chose. Ou à Fougères, par exemple, à côté de Rennes. Voilà, quand il y a déjà des militants ou des formes de socialisation autres, ça se passe comme ça. Il y a aussi l'exemple de Démocratie Radicale de Commercy, qui est un appel. Bon, après, il vaut ce qu'il vaut, mais bon, après, tu as d'autres centralités, comme dans le Vaucluse, où je sais que c'est plus compliqué avec certaines organisations d'extrême droite. Donc voilà, il faut aussi garder ça. C'est difficile d'avoir un point de vue lunifiant sur l'ensemble. Il faut aussi voir dans le détail, même sur les formes de mobilisation.
Ouais, c'est ça. C'est un mouvement, finalement, qui est difficile à caractériser de manière uniforme, précisément parce qu'il n'est pas uniforme et que voilà, il dépend aussi de l'inscription dans des territoires différents sociologiquement et aussi politiquement, quoi. Donc effectivement, peut-être c'était un des aspects les plus controversés, l'existence d'actes ou de propos racistes, sexistes, de discours conspirationnistes. Évidemment, ils existent. Je ne sais pas si on peut en faire l'analyse, à part qu'évidemment, ils sont répandus dans la société française, donc il n'y a pas vraiment de spécificité aux gilets jaunes là-dessus. Mais que, voilà, ils reflètent aussi ce qu'est la société française aujourd'hui, et aussi que ces niveaux de racisme, de sexisme, de conspirationnisme, etc., au sein des émanations locales ou à la limite virtuellement des groupes Facebook. Il dépend de plein de facteurs, ce qui fait aussi le caractère composite du mouvement.
Et cet aspect versatile du mouvement, il explique aussi la difficulté qu'a eu le pouvoir d'État à y répondre j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'hésitation, ne serait-ce que dans les techniques du maintien de l'ordre qui ont été employées, avec au départ la première grande manifestation sur Paris qui s'est vite transformée en émeute. Un maintien de l'ordre assez classique qu'on dit à la française, c'est-à-dire avec les flics qui se mettent en retrait sur les rues transversales et qui vont jeter quelques grenades de loin, mais sans forcément aller au contact au départ. Puis la préfecture s'est rendue compte que ça commençait à dégénérer et que le lieu même de la manifestation qui est sur les Champs-Élysées, ça obligeait à une réaction en fait. parce que c'est un sexe symbolique, on a pu voir que l'espèce de truc en plastique là, qui a été cassé à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, il a fait la une de... fait la une de The Economist, donc ça a impacté directement l'image internationale de Macron.
C'était Marianne, ouais.
Ouais, voilà. En plus, c'était Marianne.
L'image de la Révolution française, je crois.
Voilà, ça a fait... C'était scandaleux, quoi. Et du coup, y a des flics qui sont aventurés. On a pu voir des charges un peu frénétiques, je dirais, désordonnées. Il y a eu des réactions très violentes, enfin, des échanges très violents, en fait. Et avec beaucoup de blessés. Mais la semaine d'après, donc... l'État a décidé de verrouiller complètement Paris avec des arrestations préventives, des fouilles dans tous les sens et plus de 1000 arrestations qui ont conduit à des gardes à vue, ce qui est assez colossal.
Là où je suis dans ton sens, je pense que c'est un imaginaire très fort celui dont on parle, en tout cas pour ces gens qui sont mobilisés. Parce que contrairement à beaucoup de militants, ils sont allés beaucoup plus loin, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ce soit eux qui aient fini en garde à vue majoritairement et pas des militants lambda qui étaient aussi là. Mais le degré de violence, je pense, était assez élevé aussi du côté des Gilets jaunes qui sont allés franco.
Oui, est-ce qu'on peut parler justement de cette dimension émeutière des Gilets jaunes qui est quand même qui a quand même beaucoup surpris, hein, surtout au vu des débuts du mouvement.
Bah, du coup, j'ai l'impression que ça a donné un contenu politique assez différent dans le sens où c'était que essentiellement des attaques contre les lieux de la bourgeoisie, quoi. Des hôtels particuliers, des préfectures, des magasins de luxe. C'était quand même très très orienté. Et du coup, en fait, là où en fait, les médias essayaient de donner la parole à des gens d'extrême droite, tout d'un coup, en fait, à des petits patrons, etc., il y a eu une orientation aussi sur... tout d'un coup, ils ont basculé sur quelque chose de plus spectaculaire et qui avait un contenu politique quand même plus à gauche, quoi.
Mais ce qui est aussi perturbant, je pense, c'est qu'ils sont aussi dans cette logique républicaine de police qui est là aussi pour, à l'origine, les protéger. Et donc, il y avait quand même aussi des interactions qui étaient très étranges de l'ordre de... Ah, mais vous êtes aussi père de famille, ou je sais pas quoi, des choses que nous on ferait plus du tout. Mais et du coup, je pense que tactiquement, c'était un truc qui a dû être ultra perturbant aussi pour les gardiens des forces de l'ordre.
Bah, ils ont été dépassés parce qu'en fait, les forces de l'ordre, les Condé, ils ont l'habitude d'encadrer en fait des manifestations qui ont un début, qui ont une fin, qui ont un parcours et qui possiblement partent en émeute comme pendant des fois la loi travail. Mais du coup, en fait, là, ils se sont retrouvés dans une situation où ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas vécu de situation émeutière sur plusieurs villes en même temps. Et qu'en même temps, c'était sur des territoires différents parce qu'en fait, il s'agissait de protéger la propriété bourgeoise. À un moment donné, où quand ils allaient en banlieue, pendant les émeutes de banlieue, ils étaient plus ou moins... ils étaient dans un territoire qu'ils connaissaient tant que ça. Et où, en fait, tu avais aussi une question de la verticalité, où tu avais une solidarité à l'intérieur des immeubles pour que les émeutiers puissent soit se réfugier, soit, en fait, jeter des trucs à partir des tours, etc. Et du coup, là, ils se retrouvaient, en fait, dans une configuration qu'ils n'ont jamais vue, en fait. Ça fait depuis 68 qu'il n'y a pas eu des grosses émeutes dans des quartiers bourgeois. Et à l'époque, ce n'était pas encore des quartiers super bourgeois. Mais disons qu'en fait, le dépassement qui a eu lieu du côté des flics, c'est parce qu'en fait, c'est pas leur taf, quoi. Ils ont pas de... Et c'est aussi qu'il y a un caractère où... comment tu t'organises quand il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de parcours. Donc, combien de manifestants aussi étaient tu vois, ils ne savaient pas où aller, quoi. En disant, mais où est-ce que je rejoins les gens? Où est-ce que je vais? Je sais pas où c'est. Nous, on a l'habitude de se donner des rendez-vous, quoi, pour aller en manif.
Pour vous, quelles sont les perspectives de ce mouvement? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, disons objectivement? Qu'est-ce qu'on peut en espérer subjectivement, tout en ayant évidemment conscience de ces nombreuses limites et de choses qu'il faut évidemment critiquer, comme la présence en son sein de discours ou d'actes racistes, sexistes et conspirationnistes, même si évidemment ce n'est pas une caractéristique particulière de ce mouvement?
Déjà, il y a une réponse de l'État qui consiste beaucoup en de l'enfumage, c'est-à-dire la soi-disant augmentation du SMIC, qui est en fait une augmentation de la prime d'activité accéléré alors que c'était déjà prévu, plus l'inflation, etc. Mais il y a une réponse de l'État, ce qui est déjà assez rare pour être notifié, parce que ce qu'on a eu avec le mouvement des cheminots début 2018, c'est un relatif mutisme, en fait, des négociations sociales. Et là, on sent que le gouvernement Philippe et Emmanuel Macron, peut-être pas panique, mais sont face à une situation où ils se doivent de réagir. Et du coup, la question, c'est est-ce que ce qu'ils nous promettent, c'est-à-dire, oui, bon, finalement, on va retarder la hausse du prix, et finalement, ce ne sera pas pour tout de suite, finalement, on va vous donner des mesures, mais elles-là non plus, elles ne sont pas pour tout de suite. Est-ce que ça va fonctionner, ça va permettre d'apaiser le mouvement de manière couplée à la répression, bien entendu, ou bien est-ce qu'on va pouvoir être en mesure de dépasser ça et d'aller plus loin?
Il y a peut-être aussi la question syndicale, voir quelle va être l'attitude par exemple de la CGT ou de Solidaire. Est-ce qu'ils vont. Enfin, Solidaire a déjà plus ou moins soutenu de mémoire. Mais est-ce que la CGT va y aller et voir éventuellement ce que ça peut donner sur les différents barrages ou autres. À voir si ça peut aussi tempérer ces questions justement sur le racisme structurel ou sur d'autres choses. Enfin voilà, ça c'est aussi les formes de socialisation. Par la lutte qui peuvent éventuellement changer aussi au sein des syndicats, parce que les syndicats, quand même, c'est maintenant devenu beaucoup des bastions dans le secteur public, et c'est clairement une population qu'ils ne connaissent pas ou peu, de ce que j'en vois. Donc ce serait quand même bien qu'ils y aillent.
Bien sûr, et puis après, il y a peut-être aussi des contradictions de ce mouvement en termes de racisme et de sexisme qui, comme par exemple dans d'autres cas de mouvements sociaux, peuvent, au fur et à mesure du temps, éclater. Et provoquer évidemment des tensions, mais aussi une amélioration, disons, en termes de discours. Et peut-être on pourrait dire un dernier mot sur le mouvement lycéen, qui est aussi quelque chose de notable au cours du dernier mois.
Bah, du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant d'en parler, parce qu'en fait, les lycéens ont commencé à se mobiliser, c'est une composante assez prolétarienne. C'est beaucoup de lycéens en fait de lycées agricoles, ou alors beaucoup de lycéens de lycées pro ou de lycées généraux pas très très cotés, quoi. Et du coup, alors qu'en fait il y avait une mobilisation assez difficile en fait pendant l'année 2018, quand il y a eu le mouvement des facs et qu'il y a une tentative en fait de la part des étudiants et de militants en fait d'aller voir des lycéens pour expliquer c'est quoi les réformes qui vont avoir lieu, comme la réforme du bac ou la réforme des lycées professionnels ou Parcoursup. Et à l'époque où il y avait eu des tractages en fait, c'était beaucoup de lycéens assez résignés et qui étaient dans un modèle où ils avaient peur, en fait, à la fois pour les années à venir, parce que ça allait être plus sélectif, et à la fois, ils avaient peur des flics, parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de tenir un blocage de lycée, même, en fait, dans les lycées de classe moyenne à Paris, maintenant. Et vu que les flics arrivent tout de suite, et qu'ils arrivent aussi armés, et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, l'explosion des gilets jaunes a donné en fait une vigueur au mouvement lycéen qui commençait déjà à émerger et qui a émergé aussi pas mal en banlieue parisienne. Enfin, moi, je parle à l'échelle de ce que je connais. D'abord en banlieue, dans les lycées plutôt prolétaires, et ensuite dans les lycées plus aisés. Du centre-ville, mais du coup en fait c'est un mouvement qui est assez différent des autres mouvements lycéens qu'on a pu connaître par exemple pendant le CPE ou peut-être Fillon, etc. Et du coup en fait il y a une sorte d'autorisation en fait par les gilets jaunes du déclenchement de la violence chez les lycéens.
C'est peut-être subsidiaire, mais moi aussi, un des éléments sur cette mobilisation qui m'interroge beaucoup, c'est en 2016, il y avait eu beaucoup de réactions sur cette manchette reçue par un élève d'un lycée. Et là, on a quand même beaucoup de lycéens qui ont eu à les crever ou autre chose, et ça passe absolument sans problème.
À Bergson.
Ah oui, d'accord.
Bah, oui, l'hypercute.
L'hypercute. Et là, on a quand même pas mal de blessés directs par des LBD. Ça pose pas vraiment de soucis de personne. Alors que quand même, à l'époque, il y avait quand même une levée de bouclier, donc c'était encore une intégration.
Je trouve qu'il y a un élément qui est assez notable, tu vois, c'est que, par exemple, pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, où en gros, tu as eu le geste qui s'est répété un peu dans toute la France, aussi bien chez des lycéens que chez des gilets jaunes, honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu 10 ans après les émeutes de banlieue, il y a une prise de conscience, en fait, de la violence qui est subie chez les jeunes de banlieue, et que du coup, en fait, au lieu d'avoir un rapport de c'est triste, mais bon, ça ne concerne pas, en fait, il y a une démonstration de solidarité qui est assez notable. Et après, bon, c'est aussi lié au fait que à ce moment-là, en fait, il y a la rencontre entre les violences policières subies au quotidien et un mouvement, en fait, et le déplacement des violences au sein de l'école.
Oui, par rapport à ça, c'est vrai que les gilets jaunes, leur effet paradoxal, c'est que comme précisément on ne pouvait pas simplement les reléguer à c'est un mouvement de gauchistes ou c'est un mouvement d'immigrés, de racisés, mais que c'était le mouvement du peuple, même du point de vue des médias au début. Du coup, le regard sur la violence policière, c'est peut-être un des impacts déjà actuels, mais potentiels du mouvement, qui est assez intéressant, c'est que la violence policière est peut-être moins perçue comme quelque chose qui, de toute façon, ne concerne pas le citoyen lambda honnête, mais qui peut concerner n'importe qui. Après, évidemment, ça peut toujours être... Il y a toujours des rationalisations c'est les ordres, finalement les flics qui sont comme nous, etc., etc. Mais enfin, au moins, peut-être que ça a contribué à une visibilisation de cette question des violences policières qui, jusque-là, n'était pas problématisée pour une majorité des Français, quoi. Voilà, en tout cas, on remercie du coup le collectif Agitation Autonome pour toutes ces analyses très intéressantes. Et on renvoie notamment aux différents articles que vous avez produits, également aux articles qui ont été produits sur le blog de Théorie Communiste, sur le blog de Carbure, etc. etc. Donc on espère du coup que nos auditeurs et auditrices auront apprécié cette analyse, qui on espère est quand même assez nuancée et on espère utile de ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.